Bonjour à toutes et à tous, curieuses et curieux, chaleureuses auditeurs et auditrices, caliente. Bonjour et bienvenue dans l'onde curieuse de ce mardi 28 octobre. Aujourd'hui, on ouvre à nouveau les portes du Château Centre d'Art Contemporain et du Patrimoine d'Aubenas pour se plonger dans l'une des expositions actuelles, Canicule. C'est la première rétrospective des œuvres de Baptiste Cascia à voir depuis quelques jours et jusqu'au 8 mars. Avec une question, aujourd'hui, en 2025-2026, qu'est-ce qu'un artiste plasticien qui travaille l'image peut proposer dans un monde saturé d'images? Eh bien, on en parle dans un instant avec l'artiste lui-même, Baptiste Cascia, mais également Victor Secretan, directeur du château. Mais d'abord, une bise à Sylvain.
Bonjour.
Et puis, un petit tour d'agenda. Et dans l'agenda, on se bricole une vie merveilleuse avec plein de bisous de Sylvain. Ce soir, la Ringarderie accueille le premier atelier vélo en mixité choisi, qui s'appelle Camboui-boui, dans ses locaux. Atelier qui aura lieu tous les quatrièmes mardis de chaque mois, avec au programme de 18h à 18h45, l'atelier Bike Amasutra. Réglage de la position de conduite. Puis, de 18h45 à 21h, un atelier d'auto-réparation libre sur adhésion et prix libre. Donc ça se termine, je l'ai dit, à 21h. On peut venir avec son petit grignotage bienvenue. Deux questions se posent donc, mais où est la Ringarderie pour celles et ceux qui ne le savent pas encore? C'est 16 rue du Couloubray à Aubenas. Donc l'atelier a lieu le quatrième mardi de chaque mois de 18h à 21h. Et la mixité choisie, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une mixité sans hommes, cis hétéro. Sont donc bienvenues toutes les autres personnes qui ne se reconnaissent pas comme un homme cis hétéro. Et pour plus d'infos sur la raison de ce choix, eh bien, la Ringarderie renvoie sur le site Bande Rugueuse au pluriel. Bande Rugueuse? Bande Rugueuse. Demain, il nous bricole une vie magique et merveilleuse. Il, le Tilt, le tiers-lieu culturel du Teil, avec au programme un atelier maquillage fluo et shooting photo pour se transformer en créature d'Halloween et repartir avec une photo souvenir, mais surtout deux stages. Un stage de magie avec Joël Mouraret à 13h30 et 14h30 pour découvrir les secrets de l'illusion. Et puis un stage Loop Station avec Eric Tarantola pour créer des boucles rythmiques et superposer des sons, composer sa propre musique. Et puis après, vous venez à Fréquence 7 proposer vos créations. Il y a également un spectacle de magie, un atelier créatif, la projection de microfolie et bien sûr un goûter enchanté. Tout ça donc a lieu mercredi après-midi au Tilt du Teil. Vous pouvez vous rapprocher notamment pour les stages réservés avant, c'est mieux. On termine avec une vie moins enchantée. C'est demain au château d'Aubenas à 18h15, Fanny Lalande qui vous propose les faces cachées du château. Alors Fanny Lalande, elle étudie l'histoire de l'enfermement, notamment sous l'Ancien Régime, et donc elle s'intéresse particulièrement aux graffitis carcéraux, sources fragiles tracées par les prisonniers au fond de leur cachot, oui c'est moins rigolo, qui racontent l'histoire d'un lieu, mais aussi des hommes pour celles et ceux qui savent regarder. Allez la rencontrer donc demain, mercredi, c'est tout public, ça dure une heure, c'est gratuit, mais la réservation là aussi est fortement conseillée et c'est à 18h15. Voilà, on reste au château d'Aubenas, mais promis en toute liberté. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire.
try to set the night on fire.
On allume le feu de l'art et de la beauté avec The Doors et Let My Fire, sorti en 1967. On allume le feu de l'art et des images. Et on ne met pas l'art et les images dans le feu. Attention, il ne faut pas se tromper. Non, si on se laisse consumer, c'est par Les Canicules, titre de la première exposition monographique en institution de Baptiste Cachia, qui donne à voir jusqu'au 8 mars une cinquantaine d'œuvres, dont certaines créées pour l'occasion. L'occasion, comme l'institution en question, étant le château, centre d'art contemporain et du patrimoine d'Aubenas. Alors aujourd'hui, en 2025-2026, qu'est-ce qu'un artiste plasticien qui travaille l'image peut proposer dans un monde saturé d'images? Quelle voie peut-il se frayer et pourquoi faire? C'est l'une des questions qui me turlupine depuis que j'ai vu ses œuvres et que je pourrais poser donc directement à Baptiste Cachia puisqu'il est là. Bonjour Baptiste.
Bonjour.
Et que je poserai aussi à Victor Secrétin qui a décidé d'inviter Baptiste Cachia. Bonjour Victor.
Bonjour Sophie.
Directeur du château, centre d'art contemporain et du patrimoine d'Aubenas. On a entendu, on vient d'entendre Light My Fire des Doors, qui est aussi le titre de l'une de tes œuvres. Alors pourquoi ce titre? Et est-ce que, de manière plus générale, les années 60 t'influencent et comment?
Alors pourquoi le titre? C'est assez simple. Je vais souvent droit au but. Et Light My Fire, donc la toile qui porte ce titre, est une photographie qui vient de Los Angeles, des méga-feux qui ont eu lieu en début 2025, je crois. Et donc c'est à Los Angeles, il y a du feu. Je me suis dit feu, Los Angeles, Light My Fire, les Doors.
Okay.
Et c'est un groupe que appréciait beaucoup mon père aussi.
D'accord. Donc les années 60, c'est plutôt par ton père.
Par mon père et aussi beaucoup d'artistes qui m'ont influencé dans les années 60, comme Robert Rauschenberg, qui est un artiste américain, Sigmar Polke aussi, qui est un artiste allemand. Et il y a un travail de l'image imprimée aussi dans les années 60 qui est très intéressant et qui va au-delà justement de la simple reproduction.
Mmh. Eh bien justement, on va en parler. Ça va être juste la question directrice en fait, hein, qu'on se pose et que je vous ai posée et que je me suis posée en voyant l'exposition. Victor, pourquoi avoir invité Baptiste?
Ben, je pense que tu as vraiment posé la question essentielle. S'il y a une question, c'est vraiment celle que tu as posée. Qu'est-ce que veut dire peindre dans un monde saturé d'images, Et tout le travail de Baptiste, il repose sur des images qu'il prend lui-même, qu'il pioche sur Internet, qu'il génère même aujourd'hui par intelligence artificielle. Je veux dire qu'il explore toutes les façons déjà de faire une image et il les met en peinture à travers différents procédés dont peut-être il pourra nous parler plus en détail. Et il crée en fait avec la peinture, et je crois que l'exposition, c'était un des enjeux de l'exposition, on a essayé de créer des zones d'attention. En fait, la peinture, elle permet de ralentir le flux. On est saturé par des flux algorithmiques d'images. On est entouré, on est vraiment dans un monde qui, au XXe siècle, enfin depuis le XIXe, mais au XXe siècle, ça s'est accéléré. L'image a pris une place prépondérante. Les écrans ont pris une place prépondérante. Et finalement, on les regarde sans les regarder. Et je crois que la peinture, ce qu'elle peut apporter de manière générale, c'est cette capacité, en fait, par sa matérialité, par peut-être sa taille, par son format, elle demande une certaine attention. Une attention, en fait, qui est complètement captée par les écrans. Et en fait, ces zones d'attention, elles nous poussent à adopter une attitude un peu plus critique. Et le travail de Baptiste, pour ça, il est essentiel, il est indispensable. Il faudrait en fait vraiment parler des images pour comprendre de quoi on parle. Là, tu as cité l'image d'un méga-feu à Los Angeles, donc ça résonne avec l'actualité, mais plus largement aussi avec des enjeux qui sont ceux de l'époque, celui du réchauffement climatique, des récits de destruction. Mais le travail de Baptiste, il touche aussi à l'intime, puisqu'il y a vraiment des images qui sont des images qui relèvent de la sphère privée, par exemple des images qui sont des portraits d'amis de Baptiste. Il y a parfois des personnes de ta famille qui apparaissent dans certaines œuvres, des paysages que tu traverses, des images que tu fais aussi, il y a des correspondances que tu crées. Et en fait, son travail, il vient vraiment interroger la manière dont on réceptionne les images et qu'est-ce qu'on en fait et comment elles dialoguent aussi entre elles. Et c'est une sorte de, un peu de mise en abîme, quelque part. C'est il y a quelque chose qui est l'ordre de la réflexion. C'est une approche aussi un peu réflexive sur qu'est-ce que c'est qu'une image et comment on fait pour s'orienter dans un monde saturé d'images.
Alors si je me place du côté du visiteur, du visiteur qui vient à cette exposition, qu'est-ce qu'il peut voir? Si tu peux, Baptiste, par exemple, parler d'une ou deux œuvres en particulier, et qu'on essaie un peu de se représenter ce que c'est, et puis ce qui t'a conduit à travailler sur ces images-là.
Deux œuvres en exemple. Est-ce qu'on peut parler aussi d'une globalité, d'une espèce de...
Vas-y.
De balade à travers un paysage dans lequel on pourrait voir énormément d'images différentes. Comme disait Victor, que ce soit des images que j'ai prises, que j'ai gardées, des captures d'écran, des brochures de journaux. En fait, il n'y a pas de règle dans les images que je garde, à part celles qu'elles sont assez... qu'elles me procurent une sorte d'émotion qui soit de l'ordre de l'intime ou de l'actualité. Et il y en a une que j'aime beaucoup, qui est dans la première salle du bas, qui s'appelle Pantin, qui est une balade sur le canal de l'Ourcq à Pantin. Et j'ai pris cette photo car elle m'a fait penser à le paysage que j'étais en train de regarder me faisait penser à une peinture des Nymphéas de Monet. Et parce qu'il y avait des feuilles mortes, enfin c'était un paysage assez triste et les feuilles mortes de chêne ressemblaient un peu au nénuphar et il y avait un jeu hyper intéressant dans le reflet de l'eau. Enfin il y avait plein de plans qui me faisaient moi du coup penser à une peinture de paysage. Mais assez monotone et triste, et le traitement il est beaucoup plus gai. Et s'il y en a une autre, en haut, il y a une image que j'ai faite, une peinture que j'ai faite récemment, qui est un portrait d'un dragon qui boit une bière de manière assez maléfique. Et justement, il y a un cartel qu'on a écrit ensemble. Enfin, j'ai écrit les cartels qui sont dans cette salle du haut. Et avec Victor, on a collaboré sur les textes. Et
parce que l'exposition est sur deux salles.
Trois salles.
Trois salles. Oui. Sur deux niveaux, pardon.
deux niveaux. Et donc, du coup, ce dragon, à la base, était un prompt que j'avais écrit sur une IA. Et Et je me suis rendu compte quelques mois après que je parlais de moi avec ce prompt. Enfin, c'est un espèce de...
C'est une image qui est générée par intelligence artificielle.
C'est une image qui est générée par intelligence artificielle. Et en fait, il y a une grande part d'inconscient dans mon travail où... Enfin, des images que je prends et au fur et à mesure que je les re-regarde ou que je les travaille, je crée plein de ponts et en fait, c'est une découverte de mon propre inconscient aussi.
Donc en fait, si on va voir l'exposition, c'est comme si on prenait ton journal intime, qu'on le tournait, voilà, et qu'on fait des ponts entre tout ce que... Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si ça a semblé intéressant à une institution culturelle représentée ici par... Victor, ça veut dire que c'est le témoignage de... Est-ce qu'on peut dire c'est le témoignage aussi d'une époque ou alors pas du tout ? C'est vraiment un regard singulier sur une époque.
Moi, ce que je peux dire, c'est que pour moi, l'art contemporain, il a de contemporain dans le fait que ça n'est que le prolongement en fait, des enjeux de l'époque. Les artistes parlent de l'époque, ils se confrontent au monde avec les mots qui sont les leurs. Là, la peinture, la sérigraphie, d'autres, ça va être à travers... à travers la sculpture, à travers la vidéo, les écrivains à travers les mots, les cinéastes à travers les images, mais c'est voilà le travail de Baptiste, il résonne avec l'époque, il résonne avec cette profusion d'images et il cherche à s'y confronte, il se confronte aussi encore une fois, on l'a dit avec l'actualité de l'époque, et puis tu parlais du journal intime, c'est intéressant, c'est en fait un journal intime, souvent, ça fait écho à une actualité qu'on a pu oublier, mais ça parle des affects. Et c'est là où le travail de Baptiste, pour moi, il est puissant. C'est que c'est un travail qui parle avant tout de ses affects, et en fait, qui sont aussi plus largement, qui peuvent être partagés par d'autres. Et il jongle en permanence entre l'intime, le collectif, et c'est aussi un des sujets de l'époque, c'est ce brouillage des frontières entre la sphère publique, la sphère privée, et je trouve que Baptiste, il deal assez bien avec ça, en fait, il se confronte à ses enjeux, à ses problématiques, même si le mot n'est pas très très beau, de manière assez magistrale avec sa peinture.
Et pour parler plus techniquement, la technique de la sérigraphie est une méthode de reproduction qui est censée être assez fidèle à ce qu'on veut reproduire et moi j'attache une importance particulière à partir justement à aller ailleurs que la reproduction claire et nette et à utiliser cette technique vraiment comme une méthode de peinture et non plus comme une méthode de reproduction et l'amener vraiment dans le contexte de la peinture.
Parce que justement, j'allais te poser la question pour revenir aux années 60 et que tu as évoqué le pop art. On pense évidemment les sérigraphies à Andy Warhol. Je crois que c'est en 63, au début, où il commence voilà, à travailler sur la démultiplication des images parce qu'on est à une période des années 60 où bah, l'image commence à prendre forme avec la télévision qui est de plus en plus présente, avec surtout les marques qui sont partout. La marchandise, il interroge beaucoup ça. Il est vraiment dans son époque et lui, donc ce qu'il trouve à faire, enfin lui et d'autres, c'est justement de s'emparer des outils de l'époque. Enfin, j'ai en tête une phrase de Baudrillard, je ne sais plus très bien, mais c'est il s'empare de la marchandise pour faire plus marchandise que marchandise. En parlant des marques et des conserves Campbell. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui ? Donc, on est dans un flux d'images qui n'a encore plus rien à voir. Donc, la démultiplication des images, elle est level je ne sais pas combien. Comment, enfin, j'ai envie de dire, pour poursuivre dans les années 60, what's new, pussycat ? Qu'est-ce qui change aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que tu fais de plus que la démultiplication des images ?
Alors, moi, déjà, j'adore Warhol. Il est assez controversé, en vérité, mais moi, je l'aime beaucoup parce que il y a quelque chose chez lui, justement, dans la démultiplication des images. Il pourrait être accaparé par le bienfait, la belle reproduction, mais en fait, ça ne l'intéresse pas du tout. Lui, il veut juste démultiplier. On voit dans tous les tableaux qu'il fait que c'est crade, c'est mal fait. Il y en a des très bien imprimés, il y en a des très mal imprimés. Et ce n'est pas ça qui est important. C'est vraiment comment l'image se démultiplie, en faire en masse, jusqu'à épuiser la machine. Et je trouve, moi, ce concept hyper intéressant, comment il crée des icônes... même avec des images qui sont des fois pas très lisible. Et même Rauschenberg aussi, c'est un artiste qui fait beaucoup de collages où l'impression, la reproduction est prise comme telle, comme de la reproduction, alors que véritablement, moi, ce que je trouve aujourd'hui d'intéressant dans la reproduction, notamment dans la sérigraphie, c'est qu'il y a des matérialités qui n'ont pas encore été exploitées, c'est qu'il y a une manière d'amener justement les images vers une méthode de représentation et non plus une méthode de reproduction. Et en fait, on arrive à vraiment donner des matières qui amènent l'image dans le statut de la peinture. Et je trouve ça hyper intéressant. Et c'est ça que, en fait, donner à la... aux méthodes de reproduction, une vraie picturalité.
Du grain de la matière.
Ouais.
Qui, exactement. Du coup, qui dénote complètement par rapport aux écrans sur lesquels on voit les images habituellement.
Oui.
C'est vraiment donner corps et matière à ça. Ce serait ça.
Tout à fait. Oui, c'est... Il n'y a pas beaucoup... Enfin, je veux pas me glorifier, mais il n'y a pas beaucoup d'artistes qui utilisent la sérigraphie de cette manière pour peindre comme ça, pour aller chercher justement ce qu'on n'y trouve pas et vraiment s'écarter de la reproduction. J'ai eu une période où j'adorais reproduire, où justement j'étais un peu fanatique de la virtuosité de la reproduction et justement collé un peu à la machine. Tout en gardant les erreurs qui sont humaines, parce que l'erreur est humaine et que c'est toujours agréable de voir un peu de main d'homme dans tout ça. Et petit à petit, m'en décoller pour aller vers un endroit où, limite, on reconnaît que l'image et pas comment c'est fait pour arriver à une peinture étonnante et qui m'étonne, qui me surprend moi-même, en fait.
Justement, en parlant des émotions, ta réaction, tu as dit au départ, t'empares d'une image ou alors tu captures une image, tu photographies, si elle éveille en toi une émotion. Et au bout du processus, ou même pendant le processus, qu'est-ce que tu ressens? Quelles sont les émotions par lesquelles tu passes pendant ton processus de création et à la fin?
Il y a eu... En fait, bon, je rigole parce qu'il y a eu un moment où, quand j'imprimais, je me faisais vachement chier. Pardon, je suis cru, hein, mais...
Mais ouais, mais ça fait partie du processus.
Ouais, je m'embêtais. C'est justement quand je cherchais de la perfection dans l'impression, je passais un temps monstre à éplucher les techniques, à regarder, à être accolé justement au plus près de la machine. Et aujourd'hui, je cherche un plaisir à être surpris, à voir des matières que je connaissais pas, à voir des images qui réagissent d'une manière que je ne connaissais pas non plus, à agencer tout ça, à découvrir de nouvelles possibilités de peindre, pour peindre. Et une fois qu'on fait toutes ces découvertes, on peut les assembler, en découvrir des nouvelles. Et en fait, je pense aujourd'hui que j'arrive à être tout le temps surpris, et c'est ça le plus important dans un artiste, de se renouveler et d'arriver à être surpris et ne pas s'emmerder quand il va à l'atelier, quoi.
C'est-à-dire que tu sais à peu près, donc à partir de quelle image tu commences, les techniques que tu vas utiliser, mais par contre le reste du processus, c'est quoi? C'est l'improvisation, on voit comment tu agis dessus?
Oui, c'est ça, il y a toujours des idées, des envies, et une fois que ça s'est posé sur la toile, ça réagit différemment. Enfin, en fonction de ce qui va, il y a des prémices, et quand je commence à peindre, je sais jamais vers où ça va aller, et c'est toujours un peu magique. Je pense qu'il y a énormément d'artistes qui disent ça, et c'est ce qui existe vraiment dans la peinture en général, la surprise et se laisser guider justement par le faire et ce qui va se passer sur la toile. Et c'est, je pense que aujourd'hui, c'est un peu... j'ai l'impression de parler pour tout le monde, mais je pense pas, mais... Beaucoup d'artistes ressentent ça, beaucoup de peintres ressentent ça sur la toile, de se laisser guider aussi.
Et là, donc, on a dit, il y a une cinquantaine de toiles. Il y a 7 ans à peu près de travail, donc d'œuvres. Quand tu regardes ça... Enfin, je sais pas si tu as eu l'occasion encore de voir ça, de promener ton œil comme ça, comme presque un visiteur lambda. Tu découvres qui? Enfin, quel artiste? Qu'est-ce que ça te fait? Enfin, ça doit être assez troublant, parce que c'est la première rétrospective de cette ampleur.
Ouais.
En institution.
Oui, c'est un peu troublant. Pour répondre à la question, j'ai pas vraiment de réponse. Enfin, pour l'instant, c'est encore une surprise. Et je pense que je suis un peu en dehors de ça. Dans le sens où j'arrive pas encore à mettre de regard dessus. J'essaye d'être le, justement, j'essaye d'être le plus objectif. Et de mettre à la place du spectateur aussi, parce que je, j'essaye d'avoir un travail qui est assez accessible. Et justement, là, avec, pendant le montage de l'expo, on a essayé, et même avant, on a essayé de penser à une accessibilité du spectateur qui s'y sente bien et qui ne se sente pas... qu'on donne les clés au spectateur pour qu'il puisse comprendre le travail. Et c'est dans cette position-là que je me suis mis pour l'expo.
Justement, de quelles clés a-t-il besoin ? Est-ce qu'il a besoin de clés ou pas ? Ou est-ce qu'il peut y aller les mains dans les poches sans avoir jamais vu, alors j'allais dire, d'autres œuvres artistiques ? Mais il a vu le monde, de toute façon.
Mais les deux fonctionnent, en fait. Il n'y a pas de règles. Il y a des visiteurs qui souhaitent on va dire, un accompagnement. Donc il y a des textes qui accompagnent chaque salle. Il y a des textes qui introduisent, parce que l'exposition elle a été pensée vraiment en trois temps. Hein. Il y a vraiment trois régimes, j'ai envie de dire, différents de monstrations. Et puis, dans la troisième salle et dernière salle, les textes ont été écrits par Baptiste, donc c'est vraiment une parole à la première personne, c'est plus l'institution qui parle. Et ça donne aussi d'autres clés de lecture, c'est une autre façon de rentrer dans l'œuvre. Mais je pense que, notamment dans la première salle, il y avait une volonté d'un accrochage assez dense, un peu immersif, et d'être confronté comme ça de manière un peu peut-être violente à l'ensemble de ces peintures, de ces tableaux. Et ça va peut-être en dérouter plus d'un de prime abord, mais il n'y a pas de règle pour moi. Je crois que tout le monde a une part de sensibilité. On en parlait l'autre jour avec Baptiste, et les gens ont l'habitude de manger des images et justement là c'est essayer de les digérer et elles ont été recrachées, digérées autrement mais moi je suis très très curieux de voir la réception des œuvres de Baptiste par le public. Ah,
surtout dès l'entrée.
Oui, petite surprise.
Une surprise à l'entrée.
On ne dévoilera pas. Il y a beaucoup de vanité, beaucoup de... La mort est très présente, ouais. Enfin la mort, oui.
Pourquoi
Ou qu'est-ce que tu veux en dire? La question pourquoi est peut-être pas la bonne.
Non, bah, après, je pense que mon père est mort quand j'étais très jeune. Je pense que c'est le point de départ. Et ensuite, ça m'a traîné. Je pense que j'ai fait un deuil assez long. Et aujourd'hui, c'est un sujet qui m'a toujours un peu suivi sans que j'ai réussi à me l'approprier vraiment. Et parce que je savais pas comment me l'approprier. Et ce qui s'est passé, c'est quand justement je me suis retrouvé à vraiment peindre avec la sérigraphie, je me suis mis à m'approprier vraiment les images. Je me suis dit que c'était peut-être le moment de m'emparer de ce sujet-là et de vraiment me l'approprier pour le coup. Et aussi me sentir, on va dire, pas plus proche de la mort, mais de pouvoir en parler parce que j'ai aussi... J'ai connu beaucoup de décès dans ma vie et je trouve ça hyper dur de rencontrer quelqu'un qui fait un deuil et de jamais savoir quoi dire. On trouve jamais les bonnes personnes avec qui parler. Et c'était peut-être une manière de m'approprier ce sujet-là comme on peut s'approprier tous les sujets. Enfin, c'est un peu un exercice cathartique, j'ai envie de dire. Mmh. Et voilà. Enfin,
C'est vraiment l'art comme façon de se tenir face au monde, en fait, de s'y confronter, en fait, donc par la peinture. Et la mort est de toute façon un sujet intemporel, universel, qui nous touche toutes et tous à un moment donné. Et évidemment, c'est vrai que c'est assez présent dans le travail de Baptiste. Il y a même une salle qui est intégralement consacrée.
Qui est dédiée à ça.
Qui est dédiée à ça.
Mais c'est une... Fin... C'est une belle manière d'en parler, je trouve. C'est pas du tout la mort vue de manière macabre. C'est justement ça, c'est pour apprendre à vivre avec et
ouais, c'est le propre des vanités.
Ouais, faut que ce soit plaisant, que ça fasse partie de la vie finalement, et justement de rendre ça plus joyeux que triste, et d'accepter et de dealer avec.
Oui, d'ailleurs l'exposition, notamment dans la première salle. Il y a des... Tout est en couleur. Alors, je vais pas dire c'est joyeux, c'est doux. Il y a tout des tons pastels parmi, je sais pas combien il y a d'œuvres là, dans la première salle. Une quinzaine. Il y a quelque chose, effectivement, Ouais, qui berce aussi. Et alors à l'étage, il y a des couleurs un peu plus flashy. Voilà, c'est peut-être un petit peu plus violent. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi cette part qui est propre aussi à l'art, même si quelquefois la beauté n'est pas présente dans l'art, mais il y a quelque chose de l'ordre de l'esthétique qui fait du bien et qui permet d'aborder des sujets, même si ce sont des sujets difficiles.
Oui, c'est vrai que j'aime beaucoup, comme c'est des images qui sont violentes et que le monde globalement est assez violent, j'essaye avec ces peintures d'adoucir un petit peu tout ça et encore une fois, c'est vraiment essayer de vivre avec quoi. Et chaque peinture est un essai pour rendre ce que je vois un peu plus doux et me l'approprier de manière plus simple. Et voilà.
Allez voir cette exposition. Allez voir cette exposition. Elle est au château d'Aubenas jusqu'au 8 mars, avec également d'autres expositions dont nous parlerons, dont nous avons parlé, je ne sais que dire. Je suis Vertical May, qui réunit 6 artistes qui réinventent des écologies critiques et des manières de vivre avec d'autres formes de vivant. Et puis Gilbert Garcin, photographe aussi, qui est toujours là au château. Merci beaucoup, Baptiste Cachia.
Canicule,
donc rétrospective au château d'Aubenas. Et merci beaucoup, Victor Secrétan, directeur du château.
Merci, Sophie.
D'être venu ici. Et
merci, Sylvain.
Merci, Sylvain.
C'est la fin de cette onde curieuse. Merci à tous. Merci, Sylvain. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez à l'écoute de Fréquence 7 à 15h. Vous retrouverez vos événements dits par vous, c'est-à-dire le Telex. À 17h, c'est la rediffusion de cette onde curieuse. À 18h, c'est Polémix et la voix off. Une petite rediff, parce que quand même, c'est les vacances. Et alors, c'est rigolo, parce qu'il vous propose les 79 ans de la Sécu. On sait maintenant, bien sûr, que c'est les 80 ans. Avec un Polémix, vive le Conseil National de la Résistance. Et puis, à 21h, et ça, c'est pas de la rediff, Metal Zone, avec le groupe... Vas-y, c'est à toi de le dire, Sylvain.
Je sais pas le dire.
Regarde. Ça doit être à peu près ça. Et puis, un petit rappel, vous pouvez nous retrouver en direct ce soir à 18h à la médiathèque d'Aubenas, ou plutôt DJ Steph, pour un apéro musical. Voilà, nous on se retrouve jeudi pour une onde curieuse spéciale La Blascène. C'est une nouvelle scène à la Blachère, dédiée à la comédie, mais pas que. Voilà, bisous, ciao.